Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 22 mars 2024. Au sommaire cette semaine, on va aller à San Francisco où se termine le Game Developers Conference où Ubisoft a présenté l'évolution des personnages virtuels dans les jeux vidéo. Retour encore cette semaine sur l'événement South by Southwest avec un conférencier qui était là sur place et qui nous donne un son de cloche supplémentaire à notre discussion de la semaine dernière où on parlait des discussions entourant l'utilisation de l'intelligence artificielle. La semaine qui vient, le Centre des congrès de Québec accueille la 42e édition du colloque de la COP, un événement technopédagogique incontournable. On en parle avec le président de la COP. Et puis, le magazine Les Affaires traverse le Rubicon et décide de proposer du contenu généré par l'intelligence artificielle à leurs lecteurs. On va en parler avec la rédactrice en chef du magazine. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là. Il y a Jérôme Colombin, avec qui on va s'intéresser à cette histoire de rationnement de l'utilisation d'Internet en France. Et puis, évidemment, on revient sur la poursuite d'Apple par le ministère de la Justice aux États-Unis. Catherine Dupont-Gagnon revient sur la question qui va bientôt être posée au Sénat américain, bannir ou pas TikTok. Thierry Aubert s'intéresse à l'utilisation des données en ligne pour faire des enquêtes. Stéphane Ricoul nous parle d'ordinateur quantique. Et Jean-François Poulin explore encore cette semaine le prototypage rapide avec une invitée. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Benoît Desjardins, Richard Gatineau, Louis Capra, Roxane Tremblay et Nancy Lavoie. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Et puis tiens, cette semaine, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Ça fait longtemps que je l'ai mentionné et je me promenais sur Apple Podcasts et sur Spotify et je remarquais que les commentaires concernant le podcast commencent à dater. Je pense que ça date de l'an dernier, pas 2023, là, mais 2022 presque. Et je me disais, est-ce que ce serait possible pour vous de prendre un instant en écoutant le podcast et d'aller porter un commentaire sur celui-ci? Alors, Mon Carnet, l'actualité numérique, vous allez faire un tour sur la page sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur la plateforme que vous utilisez. Certains endroits permettent de laisser des commentaires, certains endroits permettent de donner des étoiles, des cœurs. Je vous inviterai à le faire parce que de mon côté, d'une part, ça va montrer que vous êtes présent, vous écoutez. Et puis, je suis toujours curieux de lire vos propos par rapport à la balado. Et puis, en même temps, vous savez que plus il y a de nouveaux commentaires, plus ça aide les algorithmes des différentes plateformes à présenter, à avancer, à mettre devant ce podcast. Et puis, ça va permettre à des gens donc de découvrir Mon Carnet et de l'écouter comme vous le faites, pour certains, très religieusement depuis longtemps. Alors, sur ce, bonne écoute et on commence. Allez hop, première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire.
Coucou Bruno Guglielminetti.
Salut Jérôme Colombin.
Est-ce que tu m'accueilles dans ton podcast pendant une dizaine de minutes et moi je te reçois dans le mien?
Vous êtes plus que le bienvenu parce que je vous ai déjà annoncé, je serais déçu si vous repartiez.
c'est normal. Comme chaque semaine, le débrief transatlantique, mon cher Bruno, toi à Montréal.
Je suis en train de penser à ça, toc-toc, ouais. Outre-Atlantique.
Toc-toc, outre-Atlantique, ça
peut être. Après comme... TikTok, toc-toc. Non, je vois le concept.
Oui, bon, de quoi on parle, mon cher Bruno?
Écoute.
Ah, la planète, tu ricanes déjà.
La France a fait rire la planète cette semaine. Parce que on apprend qu'une idée de génie, ça se fait de...
Bravo. Rationner.
Oh non, même rationaliser.
Et rationaliser, si tu veux.
Oui. Mais rendu à 3 gigaoctets...
Alors, attends, parce que l'intéressé précise que mais 3 gigas, vous n'avez rien compris, vous avez mal lu, c'était une tournure de style, etc. Je m'interrogeais, etc. Alors, c'est notre ancienne ministre, une ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem.
Ouais, parce que c'est une porte tournante chez vous.
Qui a sorti ça de son... C'est vrai qu'on en a eu beaucoup des ministres de l'Éducation. Elle a sorti ça de son chapeau cette semaine, en signant une tribune dans le Figaro pour dire « Oui, écoutez, on a un problème avec la consommation, la surconsommation des écrans. Tiens, pourquoi est-ce qu'on rationnerait pas Alors, mon cher Bruno, pardon, je marque une pause parce que je ne sais pas si tu l'entends, mais il y a mon robot, mon aspirateur robot qui a décidé tout d'un coup de venir faire le ménage là à côté de moi. C'est imbécile alors que je n'avais rien demandé. Donc, je vais l'insulter, le renvoyer dans sa niche. Oui, je disais donc, elle a eu la bonne idée de proposer eh bien, un rationnement d'Internet. Alors oui, 3 gigas ou plus par semaine, etc. Et ça fait énormément réagir, quoi.
Oui, mais en parlant de 3 gigaoctets, est-ce qu'elle a la petite idée de ce que ça représente? C'est même pas un film sur Netflix en 4K.
Ben, en 2004, c'était bien 3 gigas. Donc, je pense qu'elle est restée sur ce référentiel-là, si tu veux. Non, mais à la limite, c'est pas tellement ça le problème, parce que moi, je veux bien lui accorder le fait qu'elle a pris ce chiffre qui pourrait être un autre, mais que ce soit 3, 10, 100, 150 gigas, c'est le principe même de rationner Internet que je trouve absurde. Le problème qu'elle soulève est réel.
Tout à fait.
Il y a une addiction aux écrans, il y a des problèmes, ça touche autant les jeunes que les adultes aujourd'hui. D'ailleurs, elle mettait aussi le côté environnemental, mais qui, il se trouve, n'a rien à voir parce que ce n'est pas l'utilisation d'Internet qui produit et qui génère beaucoup de CO2, c'est essentiellement la fabrication des appareils, mais peu importe. Mais rationaliser quelque chose qui est devenu presque un bien commun, qui est devenu un produit de première nécessité, sous prétexte qu'il y a des utilisations déviantes, ça me paraît absurde. Et elle fait des analogies avec le glyphosate, tu sais, le désherbant chimique, avec la cigarette, avec en disant qu'on a réglementé tout ça et qu'il suffirait de faire pareil avec Internet. Ok, bien sûr qu'il faut peut-être des ajustements et des réglementations, mais on ne peut pas, en 2021, Internet, c'est la plus belle chose qu'on ait faite au XXe siècle, et malgré tous ces effets pervers. Et là, on voit la société vers laquelle on va et celle dans laquelle on est. On ne va pas revenir en arrière. Je veux dire, c'est absurde. Toute tentative de revenir en arrière est ridicule. Chacun peut faire des petites choses chez lui si ça l'intéresse, de cultiver ses tomates au lieu de les acheter sur Amazon. Très bien. Mais voilà, c'est tout. On ne fera pas aller plus loin. Moi, ça m'a beaucoup énervé.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'on pouvait te lire dans ton éditorial, on sentait le désagrément assez important. Outre toi, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réagi?
Oui, sur les réseaux. Alors, il y avait autre, puisqu'elle proposait également pour coder, faire des programmes, les écrire d'abord sur papier, tu vois, pour économiser, ou bien écrire ses mails sur Word avant de... Enfin, c'est n'importe quoi,
Je pense qu'elle connaît pas de quoi elle parle, je pense que c'est ça.
Mais je pense qu'il y a une part de « tiens, on va mettre ce sujet-là sur la table, ok, ça c'est légitime, mais pourquoi, pour mettre un sujet important sur la table, certains politiques s'autorisent-ils à dire n'importe quoi ?» On avait déjà eu, à propos de la 5G, les pires absurdités qui avaient été sorties. On fait fi de toute rationalité, de toute réalité scientifique ou pratique ou sociétale. En plus de ça, moi, je trouve que l'idée même de rationner, c'est totalement attentatoire aux libertés, à la liberté d'accéder à l'information, à la liberté de communiquer, et même au-delà. Imagine, il y aura des dérogations, donc des passe-droits, etc. Et qui en fera les frais? Les plus riches auront beaucoup d'Internet et les moins riches en auront moins. Donc, c'est totalement idiot, cette idée.
Ah, puis on vient toucher à la neutralité de l'Internet, qui est une autre question. Ah non, écoute, elle a vraiment ouvert une canne en publiant ce truc-là.
Ouais, bah écoute, on peut t'en sortir, je pense, tous les 6 mois, c'est vrai, en France, des trucs comme ça. Bon, Bruno, sur ton continent à toi, il y a une affaire un peu plus sérieuse là qui commence à faire beaucoup de bruit, dis donc. Ça y est, ouais. Apple va se prendre un gros truc dans la figure, apparemment.
Ouais, ben c'est sérieux parce que là, c'est le ministère de la Justice aux États-Unis qui, depuis 2019, travaillait sur ce cas-là. Là, les gens ont l'impression que c'est sorti hier. Mais donc, depuis 2019, sous l'administration Trump, il y avait le mandat qui avait été pris du gouvernement de vérifier, du ministère de la Justice, de vérifier. Et là, entre-temps, il y a 16 États qui se sont joints à cette mise en demeure qui a été envoyée à Apple en disant que vous avez des pratiques monopolistiques et donc on vous amène devant le juge pour démontrer ce que vous faites. Parce que
c'est la première fois pour Apple, ça.
Ben non, c'est pas la première fois qu'elle est placée dans cette situation-là. Parce que, écoute, souviens-toi d'Epic Games, c'est un peu ce qu'on revendiquait. Et dans le cas du gouvernement américain, du ministère de la Justice et des 16 États, c'est qu'on la confronte à son sacro-système de système propriétaire qui fait à la fois la force mais de son système,
ouais,
la robustesse de son système, mais
ouais.
à la fois aussi qui fait en sorte que tout tiers parti ne peut avoir les coudées franches avec Apple dans son écosystème. Et donc, c'est un peu ce qui est confronté. Ça veut dire l'impossibilité d'avoir une plateforme, par exemple, qui offrirait des jeux par un éditeur. Là, on peut penser à Epic Games, mais aussi un tiers parti qui voudrait lancer une boutique sur des applications comme ça. Bref, c'est tout le système. C'est tout l'écosystème mis en place par Apple depuis des années autour notamment de son iPhone qui est un peu comme le navire amiral qui est remis en question dans cette poursuite-là. Et j'ai bien hâte d'entendre l'argumentaire de Apple parce que ici et là, ils ont eu d'autres procès qui avaient été faits par des tiers justement qui voulaient pénétrer le système. Mais là, c'est le gouvernement américain et c'est un gros dossier. Ça fait 5 ans qu'ils ont préparé ce truc-là. Alors moi, j'ai bien hâte de voir le dénouement de cette histoire-là.
Ça a des petites odeurs de procès antitrust anti-Microsoft, non?
Tout à fait. On se revoit là.
C'est toujours la même histoire.
Oui, c'est ça. Alors, mais d'autant plus que c'est là qui est intéressant. Moi, je me demandais toujours à quel moment ça va arriver parce qu'on savait qu'il y avait une enquête qui était faite. Mais là, ça arrive au même moment où ils ont plié devant l'Europe. Et combien de fois je t'ai remercié sur le fait d'avoir ouvert cette brèche.
Voilà, tu l'avais dit, ça va peut-être les affaiblir et
mais là, c'est ça.
Et alors donner des coups des franches aux autorités américaines, finalement.
Ouais, et puis justement, parce que ils ont toujours dit que c'était une question de sécurité de système, puis là, maintenant, ils vont l'offrir en Europe, s'ils veulent faire commerce en Europe. Alors, ils pourront plus dire que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis? Est-ce qu'on va avoir une ouverture? Et ça a été proposé et fait en Europe, moi, j'ai bien hâte de voir. Puis, évidemment, il y a une fortune en jeu là-dedans parce que avec ça, t'sais, on rappelle, c'est des milliards d'appareils qui ont été vendus et systématiquement, on est rendu dans l'ordre des billions de revenus annuels qui sont générés uniquement par des ventes dans l'écosystème comme ça, dans cet appareil-là. Alors, il y a énormément d'argent en jeu et on peut être sûr qu'il y a plein de gens autour qui vont regarder le procès parce que s'il y a une brèche qui peut s'ouvrir ailleurs qu'en Europe, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se lancer là-dedans.
Eh bien, on suivra ça avec intérêt.
De ton côté, tu parles de quoi cette semaine?
Eh bien, écoute, moi, cette semaine, tu m'as donné envie, la semaine dernière, en fait, à propos du festival South by Southwest qui s'est tenu au Texas. Et donc, je débriefe le South by Southwest avec un observateur avisé qui était sur place, qui s'appelle Nicolas Diacono, et qui est présent sur tous les salons de tech, et qui déniche les tendances, et qui donc m'explique un peu tout ce qui s'est raconté là-bas, et notamment toutes les innovations et les questionnements aussi autour de l'intelligence artificielle, des questionnements en termes de business, de société, etc. Je parle de cybersécurité également et de cybercriminalité parce que on a eu un trimestre, on va dire, très très intense en France avec des piratages et des attaques par déni de service. Voilà, France Emploi, des lycées, des hôpitaux, ça n'arrête pas, etc. Donc on fait le point avec Benoît Grunewald de EZ, entreprise de sécurité. EZ en partenariat avec EZ. Et puis nouvel épisode de Écho du futur, qui est le podcast dans le podcast animé par mon ami Olivier Parent, consacré aux films de science-fiction. En quoi les films de science-fiction éclairent-ils notre vision de la technologie? Et il nous parle de Mars Express. Voilà le sommaire de Monde numérique cette semaine, mon cher Bruno.
Bon, ça va être intéressant. J'invite mes auditeurs, une fois qu'ils auront passé à travers mon carnet, d'aller faire un tour, de te prêter leur oreille, parce qu'ils vont être encore gâtés cette semaine.
Jérôme, j'invite mes auditeurs à aller écouter mon carnet après Monde numérique, bien entendu.
Jérôme, merci d'être passé comme ça dans mon carnet. Puis je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Bruno. Ciao, ciao.
Cette semaine à San Francisco, c'est le GDC, le Game Developers Conference, et il y a l'éditeur de jeux Ubisoft qui est là pour notamment présenter l'évolution du jeu vidéo avec ses Neo-NPC, ces personnages virtuels qu'on croise dans les jeux vidéo et qui sont contrôlés par la machine et non pas un autre joueur. Depuis longtemps, ce type de personnage agrémente l'expérience du jeu en lui permettant une certaine interaction avec notre personnage à nous. Mais là, Ubisoft vient de changer la donne en y injectant à ces NPC de l'intelligence artificielle générative. Pour nous parler de cette nouvelle approche, on va les rejoindre à San Francisco, le directeur scientifique de l'Ubisoft France. Bonjour David Louapre.
Bonjour.
David, vous êtes à San Francisco cette semaine pour présenter, je dirais, l'évolution de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence machine chez Ubisoft, parce que ça fait longtemps que vous en utilisez. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Neo NPC?
Il y a plusieurs évolutions possibles. Nous présentons une évolution possible de l'IA des NPC. Et en fait, la principale évolution, c'est le langage. C'est le fait qu'on va pouvoir interagir de façon libre avec les NPC, c'est-à-dire leur parler dans un micro, leur dire ce qu'on veut, et que les NPC puissent répondre. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes là-dedans, parce que juste ça, ça ne suffit pas. Il faut que les NPC soient capables de répondre, qu'ils soient en contexte, c'est-à-dire qu'ils soient liés à leur personnalité, à leur histoire, à ce qu'ils connaissent du monde, au rôle qu'ils jouent, etc. Et puis, on a travaillé sur aussi un certain nombre de systèmes pour faire en sorte que ça permette de créer des éléments de gameplay, que ça soit pas juste quelque chose qui se rajoute en plus, mais qui soit juste une couche de roleplay, par exemple, mais que ça ait vraiment des impacts possibles sur le jeu dans le but d'inspirer les game designers et les développeurs.
Oui, parce que là, on parle vraiment de la création de personnages.
Oui, c'est ça. C'est de la création de personnages au sens où il n'est plus question seulement, par exemple, d'imaginer des IA simples qui vont simplement se balader ou attaquer les joueurs d'un côté, ou alors des NPC qui ont des lignes de dialogue qui ont été complètement écrites par avance. Mais là, il s'agit vraiment de bâtir un personnage qui ensuite va se livrer en quelque sorte à une sorte de rôle d'improvisation, c'est-à-dire qu'il va essayer d'habiter son personnage en fonction des interactions que le joueur va avoir avec lui et d'une façon qui ouvre des possibilités nouvelles d'interaction avec le jeu pour le joueur. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de créer des types de gameplay qui n'existaient pas, qui n'étaient pas possibles sans ce type de technologie.
Mais le personnage, je dis le personnage ou les personnages ou les foules qui avaient une certaine intelligence, ça, je ne dirais pas que ça a toujours existé, mais dans l'histoire moderne de Ubisoft, la plupart de vos titres ont toujours utilisé. C'est quoi la volonté d'aller plus loin là-dedans?
Alors, moi, en tant que scientifique, j'aime bien penser à cette question-là en termes de quelles sont ce qu'on appelle les fonctions cognitives du cerveau. C'est-à-dire, un cerveau humain, quel type de fonction ça permet de faire? Et donc, par exemple, une des fonctions les plus classiques, c'est le contrôle moteur. C'est-à-dire, le cerveau sert à contrôler nos muscles, nos mouvements. Ça, les NPC aujourd'hui, ça le fait très, très bien. Hein. On a des NPC qui marchent, qui courent, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a des fonctions cognitives qui sont un petit peu plus compliquées. Il y a la mémoire, il y a la prise de décision. Et puis, des choses qui sont vraiment spécifiques des humains, comme ce qu'on appelle la cognition sociale, le fait que les humains soient capables d'interagir entre eux, qu'ils aient des émotions, etc. Donc, nous, en fait, si on peut dire d'une certaine manière, les foules qu'on avait ou les NPC qu'on a traditionnellement dans un certain nombre de jeux, y compris dans les jeux Ubisoft, ils ont des fonctions cognitives qui sont assez simples, c'est-à-dire contrôle moteur, prise de décision, un tout petit peu de mémoire. Et puis, en général, ça suffit au type de gameplay qu'on avait à l'époque. Et là, nous, ce qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'on rajoute des fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire des émotions, une capacité plus complexe de réfléchir sur le monde, de prendre des décisions, de se faire influencer aussi, parce que le joueur va essayer de convaincre un NPC de faire autrement. Le NPC va changer ses plans pour le futur. Le NPC va évoluer dans sa relation sociale avec par exemple, une relation de confiance avec le joueur. Donc voilà, on essaye en quelque sorte d'ajouter des fonctions cognitives pour enrichir les possibilités de gameplay.
Et puis, je reviens sur ce que vous disiez. Moi, ça me fascine la mémoire. Un personnage virtuel qu'on voit, ben, ça a toujours été un peu bête, ça réagissait en fonction de ce qu'on faisait, mais de savoir que vous voudriez rajouter la mémoire et donc qu'il apprenne et que la relation entre le joueur et le personnage virtuel progresse, c'est vraiment pas banal. Là, vous êtes en train de jouer avec presque l'émotivité du joueur. Là. Il va se développer au fil du temps un sentiment d'appartenance, un apprivoisement.
C'est ce qu'on a constaté, nous, en travaillant sur ce prototype. C'est-à-dire qu'on avait, plusieurs personnages qui ont été créés par notre directrice narrative, donc, dont elle a bâti toute l'histoire personnelle, la personnalité, la façon de parler, les tics de langage, ce genre de choses. Et puis, on se rendait compte qu'à la fin, on avait l'impression de les connaître, à un point qui fait que si, à un moment donné, il y avait quelque chose qui marchait plus dans un des algorithmes ou quelque chose comme ça, on se disait, notre personnage, c'est plus lui, il sonne plus pareil.
Donc, on le reconnaît.
Oui. Voilà, exactement, on le reconnaît comme des vraies personnes. Et donc, oui, ça change. Et cette idée de mémoire, elle est importante parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les NPC ont peu ou pas de mémoire. C'est-à-dire, éventuellement, ils se souviennent si on est passé par là, etc. Mais ils ont peu de conscience de qu'est-ce que nous, on a fait dans le monde, qu'est-ce qu'on a entrepris comme action, qu'est-ce qui se déroule devant nos yeux, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est des espèces de fonctions cognitives qu'on souhaite rajouter.
Puis, c'est fou parce que je pense à ce que vous êtes en train d'inventer, de développer. C'est une chose, par exemple, de rencontrer des personnages qu'on pourrait revoir à l'occasion dans le jeu ou d'autres qui nous accompagneraient, ou on pourrait jouer en coop avec ces gens-là. Mais je pense à un animal qui nous suivrait. Il y a déjà des jeux qui existent comme ça, où l'animal est là, il nous suit béatement, puis c'est sympathique, puis de temps en temps, on lui lance un truc, puis il va te chercher. Évidemment, je pense à des chiens. Mais imaginez un chien qui développe, ça va être fou, là. On pourrait développer une relation avec un animal virtuel dans un jeu, et lui pourrait progresser aussi au fil du jeu. C'est aussi ça. C'est pas seulement les humains, c'est vraiment tout ce qui peut être vivant dans un jeu.
Absolument. Une chose qu'on s'est dit souvent quand on a commencé à travailler sur ce prototype, c'est que le truc nouveau qu'on veut créer, c'est que pour la première fois, le jeu nous écoute. C'est-à-dire que d'habitude, en fait, c'est le joueur qui doit écouter le jeu et jouer en fonction de ce que le jeu lui dit. Et là, pour la première fois, on a on entrevoit cette possibilité que le jeu nous écoute. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément seulement limité à des personnages humains, par exemple, mais même, par exemple, parce que cette beauté, en tout cas, cette puissance des modèles de langage, c'est les deux. C'est à la fois le modèle de langage permet d'écouter le joueur et permet de lui répondre. Mais déjà, une seule de ces deux fonctions, c'est déjà quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire d'avoir un animal qui, même s'il ne parle pas, est capable de nous comprendre, de nous écouter, d'agir dans le monde en fonction de choses des instructions qu'on pourrait lui donner comme ça en langage naturel, c'est déjà quelque chose de très nouveau parce qu'on est habitué à des jeux qui ne nous écoutent pas ou peu.
Ouais, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de créer un immersif 2.0, si je reprends la vieille image, parce que c'est une chose d'avoir un environnement qui répond à ce qu'on fait, ça rend l'expérience fort intéressante, mais là, de créer ce lien, cette interactivité, là, on vient d'augmenter dans la couche d'expérience immersive, là.
Oui, c'est une forme d'interactivité qui est nouvelle et donc qui amène plus d'immersion, comme, alors faut se méfier des comparaisons, mais on pourrait comparer ça par exemple au moteur physique dans les jeux vidéo, c'est-à-dire à partir du moment où le monde arrive les moteurs physiques permettent au monde de réagir de façon systémique, à la fois ça augmente l'immersion parce que la réaction du monde est plus naturelle, et puis en même temps ça ouvre des possibilités d'interaction et de gameplay qui sont nouvelles, donc oui, les deux vont ensemble.
Bon, là, c'est beau d'avoir développé ça, de travailler là-dessus avec vos collègues en laboratoire, mais ça a été quoi la réaction des créatifs chez Ubisoft quand vous leur avez montré cette affaire-là?
Alors, en général, ils sont assez enthousiastes parce que voilà, c'est des développeurs, ils essayent de développer des jeux nouveaux, ils essayent de développer des nouveaux concepts de gameplay parce que tout le monde a envie voilà, d'essayer de trouver des choses qui n'ont pas été faites encore avant. Et globalement, ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Et c'est assez indépendant des types de jeux, en fait. C'est-à-dire que nous, évidemment, on a choisi un type de setting assez particulier, etc. Mais les gens se projettent très bien dans leur propre monde de ce que pourraient faire ces outils-là, oui.
Puis on sort de l'extérieur des murs d'Ubisoft. Quand vous en parlez, ben là, comme par exemple, vous êtes au Game Developers Conference pour annoncer ça. C'est quoi la réaction de l'industrie?
Bah, il y a tout un tas de réactions. Ce qui est important, c'est la réaction des gens qui ont vraiment joué. C'est-à-dire que nous, on a fait venir des journalistes, des influenceurs, et on leur a donné la possibilité de jouer avec notre démo pendant 30 minutes où on leur expliquait comment on l'avait conçu, quelles possibilités nouvelles ça ouvrait. Et en fait, les gens qui mettent les mains sur la démo sont en général très enthousiastes parce que il y a un truc assez grisant et il y a quelque chose qu'ils ont encore jamais vu et dont ils entrevoient à nouveau aussi les possibilités de ce que ça pourrait être dans une grande variété de jeux.
Mais quand on est un chercheur comme vous, comme votre équipe, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a créé ce nouveau type de relation avec une créature virtuelle?
Oh ben les relations, ça reste un travail de recherche aujourd'hui et donc voilà, je crois qu'aucun de nous n'est tombé amoureux d'un NPC.
Pas pour le moment.
C'est la question. Non, mais surtout en fait on essaye d'ouvrir les chakras au maximum et puis que tout le monde se saisisse de ça. Voilà, on est là pour faire de l'inspiration en fait.
Ah ben, je suis certain que vous allez en inspirer. Chez Ubisoft, comme ailleurs, vous allez faire des jaloux. Je rappelle, David Louampre, vous êtes directeur scientifique chez Ubisoft et accessoirement, moi, je veux le mentionner, créateur de la chaîne sur YouTube, Science étonnante. Toujours content de voir vos nouvelles capsules. David, bon séjour à San Francisco.
Merci.
La semaine dernière, avec Chloé Zandervast, on parlait des discussions mi-chaudes, mi-froides entourant le sujet de l'IA lors de l'événement américain South by Southwest. Et je me suis dit que j'allais revenir sur le sujet cette semaine avec quelqu'un qui était justement pour parler du sujet lors de cette rencontre et qui en a profité pour prendre le pouls sur place des participants. On va aller rejoindre de retour à Montréal le vice-président développement, stratégie et innovation chez les Sept Doigts et aussi co-président du regroupement Entertain AI. Bonjour Alexandre.
Salut Bruno.
Alexandre, la semaine passée avec Chloé Zandervast, on a fait un clin d'œil aux discussions entourant l'intelligence artificielle qui sont passées au South by Southwest. Un sujet qui a fait réagir les participants, mais je me dis qu'il n'y a rien comme parler à quelqu'un qui était là, puis encore plus qu'a fait une présentation. Alors, j'étais curieux de t'entendre sur le sujet. D'abord, comment ça a été ta présentation?
Écoute, c'était super bien reçu, c'était salle comble. J'avais été invité par les collègues Dutch, donc des Pays-Bas. Ouais. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais ils ont un écosystème techno-créatif fantastique. Et aussi, et là, on est un peu jaloux quand on regarde l'autre côté de l'Atlantique, ils viennent d'annoncer 200 millions d'euros dédiés aux expériences immersives. Et on ne parle pas d'investissement, on parle de subventions.
Donc, mais attends, ça, c'est pour les Pays-Bas uniquement ou pour l'Europe en entier?
Uniquement pour les Pays-Bas. C'est-à-dire, c'est presque c'est 10 fois plus quand tu compares avec population égale, 10 fois plus que ce qu'on a nous dédié sur 3 ans ici au Québec.
Et est-ce que tu sais quelle est l'intention du gouvernement d'investir autant?
Oui, ils ont eu un wake-up call il y a peut-être 2 ans sur l'impact potentiel que pourraient avoir les technologies immersives. On parle de XR beaucoup, on parle de VR, de réalité augmentée. Et à tout niveau de la vie quotidienne des Hollandais et aussi, bien sûr, dans la créativité. Donc, ce n'est pas juste pour les industries créatives, ce 200 millions-là, c'est pour tout. C'est le transport, c'est la gestion des villes, c'est health and safety, c'est beaucoup d'autres domaines. Et il y a ce genre de travaux qui est en train de se faire. Je fais partie de ce comité-là où on va faire notre recommandation pour un plan national pour la XR au Québec, au gouvernement Legault. Et on espère peut-être aller chercher le même genre d'éveil que les Dutch ont réussi à faire avec leur gouvernement.
En tout cas, bonne chance, parce que si on se fait au dernier budget, l'argent se fait rare au Québec, particulièrement dans le domaine de la culture. Mais bon.
C'est vrai, mais notre angle, c'est Bruno, c'est pas seulement la culture, c'est pas de la charité, déjà de un, de deux, c'est un moteur de développement économique. Et quand on parle de XR, c'est l'accélérateur pour tellement d'industries critiques qu'on a au Québec, l'éducation, la santé, le développement industriel et la culture, évidemment, mais ce n'est pas ça le moteur unique de notre action.
Mais juste pour assurer les gens qui nous écoutent, tu ne dis pas que financer la culture, c'est de la charité. Là.
Absolument.
Okay. Merci.
C'est exactement le contraire.
Ouais, je voulais juste être sûr que personne ne te prenne tes propos hors sujet. Mais donc, je reviens à ta présentation. Tu as été invité, oui. Tu as fait une présentation. C'était sur quoi?
Ben, écoute, c'était sur ce thème quand même. Ils étaient très focusés sur le potentiel des expériences immersives. Et tu sais que nous, au Sept Doigts, on a bâti un laboratoire de R&D appliqué, de prototypage dans les dernières années qui a vraiment permis à la compagnie de faire un pivot vers la technologie, donc au service des arts de la scène. Et de ça est sorti un projet clé magnifique où on a gagné des prix à l'international et au Québec d'innovation, qui était en fait notre projet où on fait un spectacle en vivant, comme tu peux le voir sur une scène normale, et en même temps, on capte la performance de nos acteurs, de nos acrobates, et on les met dans un monde virtuel en temps réel. Et ça, c'est une première mondiale, avec un niveau de difficulté technologique et narrative jamais atteint jusqu'à là. Et ça, ils étaient très curieux d'en entendre plus parler de cette expérience-là parce que ça intrigue et ça fascine beaucoup de collègues dans le milieu créatif à travers le monde.
C'est drôle, hein? Je profite que tu mentionnes ça pour te poser la question parce que quand j'ai vu le Vision Pro, j'ai tellement pensé à toi et à ce que vous faites. Est-ce que vous avez commencé à vous amuser avec ça?
Absolument. Là, je l'ai testé perso, le Vision Pro, pour commencer à voir un peu c'est quoi les features fondamentaux qui pourraient nous aider. Je pense que la résolution, la mécanique d'interaction avec les digital assets là-dessus, c'est assez fascinant. Je pense qu'ils sont extrêmement bien placés pour dominer tout ce qui est réalité mixte. Après, c'est quand même un langage narratif différent quand on parle de location-based VR versus la réalité mixte, parce qu'il faut traiter en même temps le réel et le virtuel. Et au point de vue, nous, de l'expérience qu'on peut faire vivre à nos gens, on trouve qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à explorer dans le 100% virtuel. Ouais. Donc, ça va être un autre outil qui va nous amener à développer un autre langage narratif, expérientiel, et on est très, très, très intrigué par les possibilités.
Alors, je te ramène au South by Southwest. Mis à part ta conférence, évidemment, je sais que tu es curieux. De toute façon, on te sollicite de partout pour parler d'intelligence artificielle, particulièrement dans le divertissement, mais aussi dans d'autres usages. Toi, qu'est-ce que tu ressors de la discussion autour de l'IA pendant le South by Southwest?
C'était surtout pour ça que je suis allé là, bien sûr pour le panel, bien sûr pour parler d'expérience immersive, mais le bot, tu sens qu'il y a quelque chose de spécial cette année à South By. C'est tous les panels, toutes les conférences auraient pu juste intituler l'IA au service de la créativité ou l'IA qui met en danger la créativité, dépendamment de quelle partie du spectre tu te situes dans ton niveau d'angoisse là. Donc moi vraiment, j'ai tiré énormément d'apprentissage de mes conversations de couloir, que ça soit au petit déjeuner à l'hôtel, que ça soit lors du lunch, que ça soit dans les cocktails, et surtout les plus intéressants, c'était les after hours. C'était là que ça se passait, où les gens sortaient vraiment ce qu'ils avaient dans le cœur, et c'est là que tu avais les conversations les plus intéressantes, les plus profondes. Et ça m'a vraiment permis de saisir un petit peu le zeitgeist qu'il y a au niveau mondial dans cette catégorie de personnes qui sont à l'intersection de la technologie et la créativité.
Et tu
Et
les sens
vraiment,
angoissés, ces gens-là?
alors, je pense qu'on a les deux, hein. On a vraiment, et je pense que c'est la même chose, toi tu es bien placé pour le savoir, je pense qu'à chaque grande disruption technologique, il y a un impact sur la créativité et plus que ça, il y a forcément les deux camps qui se cristallisent. Ceux, les techno-optimistes et les pessimistes, et t'as les deux. Et je pense que c'est un dialogue qui arrive à chaque fois. Et on a effectivement dans cette édition de South By la même chose. Et tu as donc les gens qui voient que l'IA peut commencer à améliorer la capacité de créer plus et mieux et plus vite. Et t'en as qui sont campés dans la question de ça va disloquer complètement, ça va changer des métiers complètement, ça va rendre des humains caducs en fait. Et c'est cette angoisse, dépendamment comment toi tu considères qu'est-ce qui est de l'art qui dirige un petit peu le niveau d'angoisse à qui je parlais.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'entre aujourd'hui et le moment où peut-être l'IA viendra remplacer l'humain, les gens d'aujourd'hui qui ne sont pas intéressés par l'intelligence artificielle, ces gens-là vont probablement être remplacés par des gens qui connaissent et utilisent l'intelligence artificielle. Elle est là, la nuance.
100%. On dit souvent que c'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, c'est un humain qui utilise l'IA qui va le remplacer. Et je t'avoue que ça se retrouve aussi dans les conversations que j'ai eues là-bas. C'est-à-dire que rapidement, tu te rends compte que ceux qui ont des attitudes les plus campées, les plus opposées à l'IA, sont en fait les gens qui n'ont jamais utilisé l'IA. Et tu te dis, mais c'est quand même bizarre, vous êtes dans le métier de créatif, dans la culture, dans les arts. Et vous n'avez même pas voulu voir c'est quoi cette patente-là comme outil. Est-ce que ça vraiment ça vous aide? Est-ce qu'il y a des limites? Parce que moi, j'utilise l'IA tous les jours, plusieurs heures. Et du texte-to-texte, et du texte-to-image, et du vidéo. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de promesses et de potentiel aujourd'hui, mais il y a énormément de barrières encore. Et crois-moi, l'humain n'est pas prêt de disparaître, surtout quand on parle de créativité. Puis ça m'amène à une discussion vraiment fantastique que j'ai eue avec une directrice artistique. D'un projet immersif très cutting edge qui s'appelle Dana Ware, qui était Chief Creative Officer de The Void. Certains de ton audience pourraient connaître ça, The Void. Et quand on parle de direction artistique, vraiment cutting edge la technologie, tu n'as pas mieux que ça. Mais cette dame me parlait de son parcours dans les 20 dernières années, comme quoi elle a été une de ses dernières cohortes à apprendre le développement photographique chimique, tu vois, dans son école. Et elle se dit, mais si j'étais restée campée là-dessus que non, l'art, c'est ça, c'est juste cette technique, elle aurait jamais pu évoluer. Et elle s'est transformée maintes fois dans sa carrière d'artiste et de directrice artistique. Et c'est ce genre d'attitude-là, je pense que les artistes qui auront cette attitude-là vont gagner au final. Et la créativité humaine, et ne pas confondre avec les artistes eux-mêmes, la créativité humaine, moi, je pense qu'on est sur le point d'une renaissance et d'une explosion cambrienne de la créativité humaine. Moi, c'est ça mon point de vue. Je suis en train de le constater aussi sur le terrain.
Ben oui, parce que là, on possède encore plus d'outils qu'on possédait auparavant, ce qui peut nous libérer de certains soucis et nous permettre d'aller plus loin dans la
Complètement.
création. Quand tu ressors de là, que tu reviens à Montréal dans tes activités, Alexandre, ce que tu as appris, les réflexions que tu as eues, les discussions que tu as eues, t'en tires quoi pour les gens qui sont dans le domaine ici?
Écoute, j'ai plusieurs niveaux de lecture. Tu sais, j'ai les gens, j'ai comme tu dis, très, très haut niveau, la créativité humaine. Ensuite, j'ai et de plus petit niveau, c'est nos artistes québécois. Et puis, à travers tous ces niveaux de lecture, j'ai des perspectives différentes. Je t'avoue que moi, je suis aussi, le chapeau que je portais à South by Southwest, c'était aussi celui de coprésident du conseil d'administration de Entertain AI. Et peut-être que tu sais ce qu'on fait, mais on essaie d'être une voix qui rassemble, qui est positive, qui montre les opportunités au milieu créatif de l'utilisation de ces nouveaux outils-là. Et on essaie d'agir un peu comme contrepoids des voix très pessimistes et très défensives sur la question de l'IA. En ce moment, à Ottawa, avec la loi C-27 que tu suis sûrement, c'est surtout des associations qui sont dans la protection des métiers traditionnellement. Et je pense que c'est une erreur parce que peut-être même si on est gagnant à très court terme, à moyen terme et certainement à long terme, on va en fait nous pénaliser beaucoup plus. Si on estime qu'on est plutôt dans des scénarios où c'est un changement de paradigme que ça amène ces outils-là, il faut accompagner et accélérer la transformation des métiers pour que nos artistes d'aujourd'hui restent pertinents dans le milieu créatif de demain. Et c'est ça un peu la voie qu'on essaie de porter. Donc, si je reviens à ta question, avec quoi je reviens au Québec de ça, je t'avoue que je reviens en fait un peu plus pessimiste. J'étais parti de manière très optimiste en disant non, on a des experts québécois inégalés, on a des talents créatifs, artistiques inégalés au Québec, on doit dominer ce nouveau défi. Et quand je vois le niveau d'innovation, d'ouverture d'esprit, de tests, de prototypage qui se fait en dehors du Québec, ça m'inquiète. Parce que je me dis, et quand je regarde aussi, j'ai fait un deep dive sur vraiment aussi la nature de l'écosystème technocréatif du Québec. On est malheureusement, ça a été une bonne stratégie pendant des décennies, mais on a bâti un écosystème qui est en attente de commandes des États-Unis. Et c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans le jeu vidéo. On a bien sûr un gros studio de jeux vidéo, Behaviour, on a quand même pas mal d'indépendants, mais malgré tout, on est à la merci des commandes qui viennent ou qui éventuellement ne viendront plus de l'étranger. Et donc, ça a augmenté en fait mon sentiment d'urgence pour changer un peu notre mindset et pour se doter d'outils pour prototyper. On n'a pas des modèles fondationnels qui sont faits au Québec. Ça, c'est sûr, on a déjà manqué le bateau pour toutes sortes de raisons. On n'a peut-être pas besoin de les faire. Mais on n'a pas d'outils non plus créatifs que je vois sortir qui me fascinent. Les Runway, les Stable Diffusion, les Créa, les Pika, tout ce que tu peux imaginer, tous les trucs fun avec qui on teste, il n'y en a pas un qui est fait au Québec. Puis je sais, je connais l'état des startups au Québec, il n'y en a pas vraiment qui travaillent sur des trucs vraiment cutting edge là-dessus. Ça, c'est de deux. Troisièmement, je te dirais que même nos artistes, ceux qui sont les usagers de ces nouveaux outils-là, on a beau dire qu'on est fort au Québec, honnêtement, on n'est pas plus fort qu'ailleurs. Et je pense qu'en ce moment, je vois des choses plus encourageantes qui sortent en Europe puis aux États-Unis. Beaucoup plus qu'au Québec. Et ça, c'est un autre danger. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas peur pour le Québec à long terme. J'ai pas peur pour le court terme. J'ai très peur pour le moyen terme. Parce qu'il y a un potentiel de dislocation et de disruption des métiers majeurs. Puis ça fait quoi? Je te donne un exemple très concret. Tu sais, pense à faire un clip pour une publicité pour une voiture. Là, traditionnellement, tu dois engager une agence de créa, une agence de prod, tu dois identifier tes sites pour le shooting, tu dois louer la fameuse voiture. Tu as toutes sortes, une ribambelle de personnes qui viennent pour faire ce clip-là. Ça prend des mois et ça coûte des centaines de milliers de dollars. OK? Et maintenant, de quoi ça a l'air le Québec et tous ces métiers que je viens de mentionner quand tu n'as plus besoin de louer un site pour du tournage, tu n'as plus besoin de caméra, tu n'as plus besoin d'engager des caméramans, plus besoin de monteurs, pas besoin de tout ça. C'est fait pour 5% du coût original. De quoi ça a l'air? Et le mandat qui ne va pas venir du Québec, parce qu'on n'a pas des centres de décision au Québec par rapport à ça, il va aller où? Il ne va pas aller au Québec. Et donc, c'est ça qui m'inquiète dans le moyen terme. Et c'est ce qu'on essaie d'un peu de faire un wake-up call à tout le monde au Québec, et des ministres, et jusqu'aux artistes sur le plancher, dire il faut qu'on se réveille parce que ça va nous taper dans le visage, on va se dire mais ça sort de où tout ça là?
C'est tellement drôle parce que là, tu es en train de faire un clin d'œil à une entrevue que j'ai faite il y a quelques semaines avec Pinka Nova à Lyon, en France, qui justement maintenant est en train de travailler sur l'art de faire de la grosse production à l'aide
Ouais.
des IA, exactement ça, à 5% du budget. Mais ce que j'entends aussi au niveau du divertissement et de l'art, c'est qu'on est en attente de voir un nouveau Robert Lepage, nouvelle génération, qui va être capable de catalyser cette forme d'utilisation de l'IA. Et pour le
C'est...
moment, il n'y en a pas là.
T'as tout à fait raison, et c'est le moment d'essayer de le faire sortir du Québec, ce Robert Lepage, parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits, d'autres écosystèmes qui se travaillent actuellement et qui sont vraiment des pros pour tous ces nouveaux outils-là. Et qu'on aime ou pas l'art, ce qui est généré par ces outils-là, ça reste quand même un output créatif. Et que on va pas avoir de débat philosophique encore entre ce qui est du vrai art ou du faux art, là. Je pense qu'on a compris où est-ce que
Ouais.
ça
Puis de toute
ça.
façon, moi, je te dirais, l'art de la requête, dès le départ, c'est déjà quelque chose. Autre question que je voulais aborder avec toi, puis on va terminer là-dessus, c'est le fait que j'ai vu une publication sur ton compte LinkedIn qui était un appel aux créatifs, aux gens qui s'intéressaient aux nouvelles façons de créer. Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce que c'est ça exactement, cet appel-là.
Ben justement, tu sais, pour faire le lien avec ce que je disais un peu tantôt, mon plaidoyer justement pour que le Québec sorte un petit peu de sorte les meilleurs créatifs dans cette nouvelle ère de l'IA, c'était un peu pour ça que je l'ai fait. C'est un appel au talent, un appel pour savoir c'est qui les plus innovants au niveau de la créativité IA au Québec, parce que je vois des agences qui sont natives de l'IA émerger en Europe, en France. J'en vois du côté de la côte est américaine, côté côte ouest. Et il faut qu'on ait l'équivalent au Québec aussi. Et donc, c'est aussi cet appel-là pour identifier les talents entre nous et échanger et se mettre à niveau et se fasciner les uns les autres avec les tests qu'on fait tous dans notre côté, dans nos cuisines, et vraiment upskill et level up tout le monde un petit peu. Et donc, on va sûrement le faire au sein de EntertainAI, où je veux qu'on les identifie, je veux qu'on leur donne des chances de rayonner au Québec et bien sûr à l'international, parce que je pense que c'est la seule façon dont on pourra reprendre notre place dans le peloton de tête dans tout ce qui est techno-créativité au Québec.
Et est-ce que ton appel est aussi lancé à ces Québécois qui, et il y en a quelques-uns, qui travaillent chez les géants de l'IA présentement, mais à l'extérieur du Québec?
Absolument. Parce qu'on a la chance d'avoir ces outils qui mettent tellement de puissance dans les mains d'individus. Et donc, ce n'est pas parce que tu travailles dans une grosse compagnie technologique à l'étranger que toi, comme passionné de la créativité, tu ne veux pas aussi développer cet aspect-là de ton travail, de ton temps. Et je pense qu'on peut accueillir tous ces gens-là au sein de cet appel au talent de EntertainAI.
Alexandre Teodorescu, merci vraiment pour être débarqué dans mon carnet pour partager ces activités que tu as eues, puis aussi cette réflexion avec laquelle tu reviens ici. Je rappelle que ben, tu le disais, co-président d'EntertainAI, mais aussi vice-président développement, stratégie et innovation chez les Sept Doigts.
Oui,
Merci encore d'être passé.
merci beaucoup.
Dès mardi prochain, donc du 26 au 28 mars, il y a le Centre des congrès de Québec qui va accueillir la 42e édition du colloque annuel de la COPS, le grand rendez-vous des gens qui s'intéressent au contenu et aux outils technologiques dans le secteur de l'éducation. Au programme, on parle de 300 ateliers, des conférences, des panels et même deux salons de l'innovation. Et cette année, vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que le thème, c'est innover, partager et collaborer ensemble à l'ère de l'IA. Alors évidemment, avec un thème comme celui-là, ben, l'intelligence artificielle vient prendre une bonne partie des discussions. Pour nous parler de cette rencontre et de l'IA justement dans l'éducation, on va aller rejoindre immédiatement le président de l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales, la COPS. Bonjour Stéphane Lavoie.
Bonjour Bruno.
On est à quelques jours du début du colloque annuel, c'est la 42e édition. Et cette année, ben évidemment, comme à l'habitude, vous parlez beaucoup de technologie, mais cette année, on sent que l'IA a le vent dans les voiles dans votre édition.
C'est exact. Il y a beaucoup d'engouement depuis novembre 2023, là, 2022 en fait.
22.
Avec l'arrivée de ChatGPT, ça l'a vraiment chamboulé beaucoup de choses au niveau de l'éducation. Puis les gens en demandent, ce qui fait en sorte qu'on a quand même quoi, 60 ateliers sur les quelques 300 de notre programme du 42e colloque qui traite de l'intelligence artificielle.
L'an dernier, ben, vous aviez déjà touché le sujet, sauf que là, vous avez une bonne année et demie derrière le collet, les pédagogues aussi, et donc ils ont commencé à pouvoir vraiment installer leur réflexion, puis en même temps tester entre-temps. Donc, c'est encore plus intéressant là, pour les gens qui vont être présents pour aller les écouter.
Oui, tout à fait. C'est certain qu'il y a eu le mot d'ordre du ministère d'éviter de faire des expérimentations avec les élèves. On sait que de toute façon, les élèves ont ça dans leurs mains, alors ils peuvent l'utiliser. Il s'agit juste d'avoir la bonne réflexion éthique avec eux sur le fait de lever la main et dire « oui, oui, je l'ai utilisé pour m'aider, pour m'inspirer, pour faire ce travail-ci », parce qu'il y a beaucoup de craintes de la part d'enseignants sur « comment je vais faire pour détecter s'il a utilisé ou pas l'IA ». Je pense que c'est de prendre le problème du mauvais côté, là.
Vous avez été vraiment aux premières loges pour voir l'évolution de l'utilisation des technologies dans le monde de l'enseignement, parce que c'est comme le cœur de votre travail. Quand vous regardez, on va partir aussi loin que l'informatisation, là, quand les ordinateurs sont rentrés dans les salles de classe, à travers ça, il y a eu évidemment l'évolution de l'informatique lui-même, mais aussi des services auxquels les enseignants puis les gens qui travaillent à encadrer la pédagogie ont eu accès. Avez-vous l'impression que ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle, c'est comparable à ce qu'il y a eu quand l'Internet est arrivé ou même quand l'ordinateur est rentré dans les classes, ou c'est autre chose, on est ailleurs?
Bonne question. D'emblée, l'arrivée d'Internet a chamboulé beaucoup. La démocratisation de la connaissance, ça a changé un peu le rôle de l'enseignant, mais c'est pas aussi rapide. L'accélération est beaucoup plus grande avec l'IA que ça a pu l'être à l'arrivée de l'Internet ou à l'arrivée de la mobilité quand les appareils mobiles sont entrés, que tous les élèves avaient leur propre ordinateur dans leur poche. Ça aussi, ça a évolué beaucoup la mentalité.
Et quand vous parlez aux enseignants et à ceux, je pense aux pédagogues, là, ceux qui encadrent ça, qui sont pas dans les classes, mais qui aident les professeurs à travailler sur leur démarche, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils se positionnent où par rapport à l'intelligence artificielle?
De façon générale, mes collègues du récit, nous, on est à peu près 300 conseillers pédagogiques qui œuvront pour les technologies en classe. Notre position, elle a toujours été très claire, c'est que les technologies sont utiles, c'est un outil de plus dans l'arsenal de l'enseignant. Et l'intelligence artificielle n'est pas différente. C'est un outil supplémentaire qu'on a pour aider nos élèves à atteindre leur objectif, à devenir plus compétents et ainsi de suite.
Mais selon vous, qu'est-ce qui va faire que les enseignants vont se sentir un peu comme aujourd'hui par rapport à l'Internet et à d'autres technologies? Qu'est-ce qui va faire que les enseignants au Québec vont se sentir confortables à utiliser l'intelligence artificielle?
La crainte est toujours présente. Dire, on voit qu'il y a des corps d'emploi qui disparaissent à cause de l'arrivée des technologies, puis de l'IA et tout. Puis il y a des enseignants qui s'interrogent quand on voit apparaître certains bots très précis qui agissent comme tuteurs. Puis là, ils se disent « Hé, misère, ça va-tu venir me remplacer un jour? » Le travail d'un enseignant, c'est une praxis, ça, c'est pas juste des recettes qu'on applique. Il y a toute une science aussi derrière. Il y a un art, il y a une intuition. Ce qui fait en sorte que c'est pas du jour au lendemain que l'enseignant va être remplacé par l'intelligence artificielle. Puis là, il faut simplement bien les outiller, bien les aider à s'approprier l'intelligence artificielle et voir comment elle peut les aider, eux, et aider les élèves. Je donne souvent l'exemple il y a un bot très particulier qui s'appelle RIFF, qui est utilisé aux États-Unis et qui sert à aider à la réflexion. Donc, on écrit notre premier constat, puis il nous pose des questions par rapport à ce constat-là pour aider à notre réflexion, pour faire de la métacognition. Donc, c'est pas tout il va me remplacer puis il va faire la job pour moi.
Mais votre réponse me surprend. Au début, vous dites il ne va pas le remplacer tout de suite aujourd'hui. Parce que vous pensez, vous, qu'à moyen terme ou à long terme, l'enseignant pourrait être remplacé par une intelligence artificielle?
Oh, terrain glissant, là. Ben, en fait, si on se reporte dans une centaine d'années, dans le long terme, Je crois qu'il y a beaucoup de corps d'emploi qui pourront être remplacés par l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup la science-fiction, puis on voit dans les Star Trek de ce monde, on voit les Vulcains, par exemple, qui apprenaient en bulle avec une IA, ce qui, si on se reporte très loin dans le temps, ça sera possible à terme. Mais là, dans notre court terme et moyen terme, c'est hors de question. Il faut rassurer notre monde quand même.
Ben oui, merci. De toute façon, là, aujourd'hui, quand on parle de l'IA puis de tous ces outils qui sont disponibles, ça demeure quand même que l'enseignant demeure la première personne sur la ligne de service qui est en meilleure position pour aider le jeune à utiliser l'outil de l'intelligence artificielle, mais de façon critique.
Oui, c'est très important, cette dimension de jugement critique et utilisation éthique des technologies, d'amener la question du droit d'auteur, la question de est-ce que c'est mon œuvre ou pas, est-ce que il y a plein de questions qui se posent jusqu'où je vais dans l'utilisation d'un outil par rapport à moi, ma réflexion.
Je reviens sur l'événement en tant que tel, le colloque, c'est la 42e édition. Ça joue quel rôle, ça, dans le calendrier des pédagogues, des professeurs, des enseignants? Parce que depuis le temps, vous avez pris votre place. Les gens attendent ce moment-là. Vous diriez que cette rencontre-là, là, ça représente quoi, ça, pour un pédagogue, pour un professeur?
Et ça va dépendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignants au Québec, là. Mais les enseignants qui s'inscrivent au colloque de la COPS, la plupart du temps, c'est des champions. Des différentes écoles. Là. C'est ceux qui sont en avant de la parade, ils veulent demeurer en avant de la parade. Alors, ils s'inscrivent de façon religieuse au colloque de la COPS pour aller voir les différents exposants, qu'est-ce qu'ils ont, les innovations qu'ils ont à nous présenter et voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Parce que là, les 300 quelques animateurs qu'on a au colloque, ils viennent principalement de notre réseau. Donc, c'est des expériences qui ont eu lieu ici et là, des gens qui ont pris le temps de s'approprier telle technologie et qui viennent le partager avec les autres. Donc, c'est vraiment un écosystème en ébullition qu'on a. Puis, on a des fidèles. On a des fidèles qui viennent d'année après année. Hein.
Vous avez le 10 mots magiques, puis j'ai l'impression qu'on parle jamais assez de ce volet-là de votre rencontre annuelle, et c'est le volet exposant. J'ai l'impression que de plus en plus d'exposants, justement, sont présents pour venir parler et venir présenter les outils qui sont disponibles à ceux qui veulent vraiment les utiliser. Ça, par exemple, cette année, qu'est-ce que les gens pourront voir?
Le nombre de partenaires exposants qu'on a effectivement augmenté. On pourrait dire que la grappe des EdTech québécoises, elle a vraiment augmenté. Elle est beaucoup plus grande qu'elle l'était à l'époque. Et on a des produits nichés assez intéressants qui sont québécois et qui commencent à percer au travers du monde. Là, on passe à, par exemple, à Classcraft ou d'autres produits très, très nichés qui traitent des élèves ayant des besoins particuliers. On a la robotique qui est toujours omniprésente. Les GAFAM de ce monde sont pas très présents. Il y a Google puis Apple qui viennent régulièrement. Microsoft puis le reste, ils boudent. Ils viennent pas nous voir. Ils se disent sans doute qu'ils ont atteint la part de marché qu'ils voulaient au Québec.
Et pourtant, c'est intéressant. Vous mentionnez Apple et Google. Apple a toujours été présent dans le monde de l'éducation. En tout cas, depuis longtemps. Et Google a rapidement compris, une fois qu'ils sont installés au Québec, ils ont été très actifs aussi dans ce domaine-là.
Effectivement, effectivement. Apple, c'est un indéfectible de notre colloque. Ils sont toujours présents et ils ont toujours eu à cœur l'éducation. Apple, ce qui fait en sorte que même s'ils ne percent pas autant qu'ils devraient, parce que c'est un écosystème qui est relativement fermé, dans les centres de services scolaires du Québec, il y a eu des décisions hors de contrôle de certains qui font en sorte qu'ils se sont tournés vers d'autres technologies que Apple.
Monsieur Lavoie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition-ci qui commence mardi?
On pourrait dire bonne chance, mais en fait, je le sais que ça va être un succès. On a une équipe à la COPS, on a l'équipe permanente est renouvelée depuis pas très longtemps. Ça fait à peine un an qu'ils sont en place, mais les filles sont tellement dynamiques puis elles veulent vraiment beaucoup. On a vraiment un succès assuré qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? Beaucoup de plaisir, tiens, beaucoup de plaisir.
Oh, je pense que vous en aurez. Stéphane Lavoie, vous êtes président de la COPS et je rappelle donc qu'à partir de mardi 26, 27, 28 mars au Centre des congrès de Québec, c'est le 42e colloque annuel. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
Au plaisir.
Le magazine québécois Les Affaires prend la tête de la parade en se lançant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu pour ses lecteurs. Deux fois par semaine, le courrier de Séraphin, Séraphin c'est le nom de l'agent conversationnel, va répondre aux questions des lecteurs. Un nouveau rendez-vous de finances personnelles alliant à la fois l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence humaine selon la direction du magazine. Pour en savoir plus sur cette initiative qui marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les médias québécois, on va aller rejoindre la rédactrice en chef du magazine Les Affaires. Bonjour Marine Thomas.
Bonjour.
Marine Thomas, vous annoncez donc cette semaine que les affaires vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Comment ça a été la démarche d'arriver à cette décision?
C'est une démarche qui est arrivée par opportunité. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Welcome Spaces qui nous a approchés. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accessibilité de l'information financière. Et donc, ils ont développé un outil aidé par l'intelligence artificielle qui permet de répondre aux questions de finances personnelles. Donc, évidemment, nous, à la rédaction, on se posait déjà beaucoup de questions, mais l'opportunité est arrivée. Donc, on l'a examinée et on a regardé qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand on a vu que non seulement on pouvait se lancer dans l'aventure, mais en mettant beaucoup de garde-fous autour, c'est-à-dire que... ce n'est pas comme si la machine générait du contenu puis on le publiait tel quel. Il y a beaucoup de choses qui l'entourent. On s'est dit que ça valait la peine de commencer à le tester en toute transparence avec nos lecteurs, en montrant la machine et peut-être en montrant ses limites aussi, puisque la réponse de l'IA est toujours accompagnée d'une réponse d'un expert, donc d'une vraie personne spécialisée en finance, et toujours relue, validée et mise en ligne par quelqu'un de notre rédaction. Donc, avec ces deux étapes supplémentaires de validation de notre côté, on trouvait que c'était une façon intéressante de commencer à tester l'outil en montrant aussi à nos lecteurs les possibilités et les limites de la machine.
Donc, que je comprenne bien, il y a un document martyr qui va être créé par votre IA qui s'appelle Séraphin. Et puis, par la suite, il y a un expert qui repasse là-dessus pour revalider l'information?
En fait, la réponse telle quelle de la machine, donc de Séraphin, est publiée dans son intégralité et elle est complétée en dessous par la réponse de l'expert. Donc, en fait, on peut voir les deux.
On peut voir les deux, c'est ça.
On peut voir les deux. Donc, c'est pour ça qu'on trouve la démarche intéressante avec beaucoup de transparence parce qu'on montre qu'est-ce que l'outil nous donne comme réponse et on voit ensuite la réponse de l'expert complétée ou nuancée. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que pour le lecteur aussi, qui entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, il y a comme deux volets. Il y a la réponse elle-même à une question d'intelligence une question de finances personnelles. Et on aide aussi le lecteur à répondre à la question, mais quelles sont les possibilités de l'intelligence artificielle? Donc, pour nous, il y a deux volets d'informations intéressants avec ce projet-là.
Et le risque là-dedans, parce que quand on est une institution comme Les Affaires, qui est là depuis longtemps, qui a marqué des générations…
On a 95 ans, donc c'est quelques générations.
Quelques générations, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, ben, on se lance? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui a allumé la mèche.
Oui, ben, effectivement, on est bien conscient du risque et notre crédibilité est notre actif principal comme média et on est très attentif à ça. Pour nous, le risque était modéré puisqu'il y a plusieurs étapes de validation. Comme je vous dis, on est transparent avec notre lectorat. Donc, dans ce sens-là, on préserve notre crédibilité. On explique de manière très transparente la démarche derrière. Donc, dire, ben, ça, c'est Séraphin. C'est un outil d'intelligence artificielle. Voici la réponse. Mais on ne s'arrête pas à sa réponse à elle, à cette machine-là, et on complète. Donc, pour nous, le risque est quand même mitigé. Et on trouve que le jeu en valait la chandelle. Donc, on pense que, et pour l'instant, les réponses du lectorat sont plutôt positives. Ils sont contents qu'on l'essaye.
Ça a été quoi la réaction au sein de la rédaction quand vous avez annoncé que vous lanciez cette initiative-là? Comment ça a été reçu?
La rédaction est assez ouverte. Ou alors, ils sont peut-être habitués à une certaine culture d'entreprise où on essaye de tester des affaires. Et en fait, en toute transparence, nous, à la rédaction, on se pose la question déjà depuis un moment. On n'était pas du tout rendu à l'étape de publier du contenu généré par la machine. Je pense que ça aurait été peut-être la dernière étape dans laquelle on se serait rendu. C'est vraiment l'opportunité qui s'est présentée qui fait qu'on a accéléré notre démarche. Cela dit, pour nous, c'est vraiment un projet pilote. Et complètement à côté de ça, on est vraiment dans une démarche beaucoup plus attentive de réflexion. En ce moment, en fait, on a un chantier IA. Donc, on est vraiment comme un petit laboratoire à l'intérieur de la rédaction où on a quelques journalistes volontaires, où on réfléchit ensemble à des sous-chantiers de où l'IA pourrait nous aider. Donc, on a vraiment pris le temps de vraiment examiner est-ce que c'est dans la transcription, est-ce que c'est dans l'édition, est-ce que c'est dans l'idéation. Et on est juste vraiment rendu à l'étape de test. Donc, on s'est chacun assigné quelques chantiers où on travaille en collaboration, on teste la machine et on se réunit en plénière, donc vraiment de manière agile, donc sous forme de sprint de 2 semaines. On se présente les résultats. Et l'idée là-dedans, c'est vraiment de tester les possibilités et aussi les limites de la machine et pour arriver à une charte, une politique d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la rédaction. Donc, oui, on a le projet Séraphin, mais de l'autre côté, on est aussi vraiment dans l'étape de réflexion, de test. Donc, ce n'est pas une adoption généralisée avec enthousiasme et sans aucun frein. On teste ça, on le présente au lecteur comme un projet test. Mais de l'autre, on prend beaucoup de notre temps pour réfléchir à chaque outil que pourrait représenter l'IA en voyant à quel point ça pourrait être fait. Et on est très conscient qu'il y a beaucoup encore de limites et il y a encore beaucoup d'attentisme de notre part pour s'assurer que tout soit respecté, que le droit d'auteur soit respecté. Pour l'instant, des tests qu'on voit, on n'est pas très inquiet, on n'est pas à la veille d'être remplacé par la machine.
Ça va rassurer bien des journalistes et des étudiants qui étudient dans ce sens-là. Donc, ce que je comprends aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes aux affaires qui utilisent l'IA dans le cadre de leur travail. Ça non. Se fait dans le laboratoire, mais dans la rédaction, là, des vrais textes qu'on voit, il n'y a pas de ça encore.
Absolument pas. En fait, à l'inverse, on voit bien qu'on est dans un moment où on en entend beaucoup parler. Mais puisqu'il n'y a pas vraiment de directive de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire, les journalistes, par prudence, et ils ont raison parce que c'est la direction qu'on leur donne, ne l'utilisent pas vraiment. Donc, je pense que tout le monde, comme beaucoup de citoyens, regarde un peu, joue un peu, mais on est bien loin d'une utilisation généralisée dans le cadre du travail et encore moins à l'étape vraiment de création du contenu. On commence à regarder un peu pour la traduction ou la transcription pour nous aider avec notre prise de notes, le verbatim qui est vraiment là où on a le moins de valeur ajoutée, je dirais en termes de journalisme. Ça, on commence à l'utiliser un peu, mais on voit que c'est un balbutiant encore. Mais il n'y a rien de ce qui est publié actuellement sur les affaires, à part pour Séraphin, qui n'utilise l'intelligence artificielle.
Dans un texte que vous avez publié sur LinkedIn pour annoncer cette initiative-là, j'ai bien aimé votre expression parce que vous avez dit que, dans le fond, c'était question d'être en avant de la parade. Est-ce que vous sentez que vous êtes devant la parade ou est-ce que, d'un œil, vous regardez d'autres initiatives qui sont en train de se faire quelque part dans le monde?
Oui, on est, en tout cas au Québec, on en entend moins parler, mais peut-être que tout le monde est comme nous, peut-être des petits laboratoires secrets, puis tout le monde teste ça en secret. On n'en entend pas parler. Mais à ma connaissance, le projet Séraphin est une première au Québec. Je n'ai pas vu d'autres projets similaires. Donc, dans ce sens-là, oui. Donc, je ne sais pas si on est en devant de la parade, mais en tout cas, on ne veut certainement pas être en arrière de la parade. C'est pour ça qu'on le teste. On a une petite salle de rédaction qui fait beaucoup. On a beaucoup de potentiel. Donc, on pense que l'intelligence artificielle bien utilisée, bien encadrée, pourrait nous aider à nous délester de tâches où on n'a pas de valeur ajoutée pour nous concentrer sur là où on peut apporter de l'analyse, de la profondeur, plutôt que de faire du verbatim, par exemple.
Vous le disiez, vous avez fait des tests. Si je vous demandais, c'est quoi la grande différence entre le contenu aujourd'hui, là, qui est généré par une IA comme Séraphin et celui qui est produit par vos journalistes? Ce serait quoi la grande différence entre les deux?
Pour l'instant, on voit que l'IA se trompe encore, ce qui est encore assez étonnant parce que surtout sur... pour Séraphin, c'est validé, mais encore, et parfois, il fait des erreurs presque de débutant. C'est quand même étonnant parce qu'il est supposé être en mesure d'absorber du contenu et notamment le recracher de manière synthétisée. Et encore là, on voit qu'il fait des erreurs, qu'il confond des terminologies qui peuvent être assez simples. Donc, À date, nous, on est au début, on a commencé cette semaine. Donc, ça fait une semaine, on a publié 2 textes. C'est ça la promesse à nos lecteurs, 2 textes par semaine. Donc, on est vraiment au début, mais on le sait, et c'est un peu le propre de la machine, elle ne va faire que s'améliorer. Donc, ça aussi, à force de la nourrir, de répondre à des questions, elle va s'améliorer. Mais à date, la différence principale, c'est que nos journalistes, eux, vérifient et ne se trompent pas. C'est une différence assez importante.
Oui, particulièrement pour vos lecteurs. Ouais. Mais vous le disiez, elle apprend de ses erreurs, mais elle apprend en général de par les questions. Mais au départ, est-ce qu'elle a été nourrie des archives, des affaires?
Non. En fait, comme je l'ai dit, c'est une entreprise indépendante de les affaires. Donc, c'est vraiment un partenariat. Donc, eux ont déjà développé cet outil à part. Eux sont des experts en information financière. Donc, eux, ils l'ont nourri. Je ne sais pas leur secret d'algorithme, hein, mais ils l'ont nourri avec l'information disponible de finances personnelles. Donc, c'est pas à partir du contenu de les affaires que Séraphin a été créé. Encore une fois, c'est vraiment une entité qui est indépendante. C'est un partenariat, mais Séraphin n'appartient pas à les affaires.
Marine Thomas, en terminant, quand vous avez vu la semaine dernière, il y a eu les annonces, Le Monde, Alpaes qui avait signé avec OpenAI. Avant les fêtes, si je ne me trompe pas, il y avait le groupe derrière Der Spiegel en Allemagne qui ont signé également avec OpenAI. Vous, s'il y a une grande maison qui vous approche comme ça, est-ce que vous seriez enclin à signer? C'est quoi votre point de vue là-dessus aujourd'hui?
Je n'ai pas de point de vue à ce stade-ci. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. C'est certain que les modèles d'affaires vont évoluer. Il n'y a aucun doute pour moi que l'intelligence artificielle va nous amener à revoir sûrement des revenus qu'on va avoir, ne serait-ce qu'il y a peut-être des revenus qui vont être détournés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive dans les dernières décennies. Donc, il faut rester ouvert à des nouvelles sources de revenus. Cela dit, on en sait encore trop peu et nos revenus publicitaires sont, on a de la chance, stable. Donc, on n'est pas à la veille de signer. Mais c'est certain qu'on regarde ça avec intérêt de voir si ça pourrait être des sources de revenus potentielles.
Marine Thomas, rédactrice en chef du magazine Les Affaires, merci d'avoir pris de votre temps.
Merci pour l'invitation.
Et puis, bonne chance avec votre Séraphin. Au revoir.
Au revoir.
Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
Au tour maintenant de mes collègues, en commençant d'abord avec la spécialiste en cybersécurité, Catherine Dupont-Gagnon, qui s'arrête cette semaine dans mon carnet pour venir réfléchir à voix haute à la question qui sera bientôt devant les sénateurs américains, soit de bannir ou non l'application TikTok des téléphones américains.
J'ai rarement vu un débat cyber diviser autant les générations que le discours entourant le bannissement de TikTok, cette application bien controversée tant pour son contenu addictif que son origine. Je vous propose donc, dans ma chronique aujourd'hui, une exploration en profondeur de la question. Il faut savoir, c'est pas la première fois que nos voisins du Sud tentent d'interdire l'utilisation de l'application, utilisée quand même par près d'un Américain sur 3. En mars 2023, le Sénat américain proposait le Restrict Act, un sympathique acronyme pour dire Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communication Technology. Traduction, restreindre l'émergence de menaces de sécurité qui mettent en danger les technologies de l'information et des communications. Le groupe Electronic Frontier Foundation, un centre de recherche indépendant à but non lucratif visant à protéger la vie privée, la liberté d'expression et les valeurs démocratiques, avait rapidement levé l'alerte sur l'imposant document du projet de loi, bien qu'il était décrit à l'époque aussi comme un ban de TikTok, ne mentionnait l'application d'aucune façon. Le Restrict Act fut décrit par les activistes comme le Patriot Act sur les stéroïdes, faisant allusion à l'accélération de la surveillance étatique aux États-Unis suivant l'adoption de ce premier projet de loi. En effet, le projet de loi allait bien plus que de bannir une appli de vidéos divertissantes. Son contenu large et vague aurait pu ouvrir la porte à une surveillance numérique sans précédent des Américains. Cette fois-ci, la tentative de bannir l'application TikTok se fait sous un autre projet de loi, bipartisan cette fois, sous le nom du Protecting American from Foreign Adversary Controlled Applications Act. En bon français, la loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers. Bien que ce projet nomme plus spécifiquement ByteDance, la compagnie mère de TikTok, il ne se limite pas à contrôler la populaire application et cible de plus toute entreprise désignée comme fournisseur d'applications contrôlées par des adversaires étrangers, ce qui comprend des sites web, des logiciels sur des plateformes de bureau ou mobiles et les technologies augmentées ou immersives. Quelques conditions sont posées pour autoriser le président à éventuellement désigner un fournisseur d'applications contrôlées par des adversaires, dont le nombre d'utilisateurs américains actifs qui doit être au moins 1 million, et le fait de poser une menace importante à la sécurité nationale. Bien que le projet ait été reçu favorablement au niveau politique et qu'il semble faire le consensus auprès de plusieurs experts des domaines reliés, il y a quand même place à se poser quelques questions au niveau du projet de loi. Il faut d'abord commencer par faire attention à ne pas parler du projet de loi que dans l'optique de TikTok. Je serai certainement pas celle qui viendra à la rescousse d'une application qui collecte beaucoup de nos données privées et où la désinformation se propage à toute vitesse. Mais le projet de loi va bien au-delà de l'application en question et n'adresse pas du tout les enjeux de vie privée de tous les autres réseaux sociaux, voire l'entreprise Meta ici, qui pourrait se retrouver en quasi-situation de monopole si TikTok venait à vraiment disparaître aux États-Unis. L'Electronic Frontier Foundation continue d'ailleurs à dénoncer le projet de loi qu'il décrit comme étant inconstitutionnel. En effet, rien de ce qui est proposé jusqu'ici adresse l'éléphant dans la salle, la collecte massive de nos données personnelles. Et il semble légitime également de s'inquiéter de la pente glissante au niveau de la liberté d'expression en ligne ou du comment on peut s'assurer de bloquer une plateforme sans contrôler l'usage de technologies comme les VPN, des outils importants pour la liberté et la vie privée. Dans les mots de l'Electronic Frontier Foundation, au lieu d'adopter un projet de loi excessif et mal avisé, le Congrès devrait peut-être empêcher toute entreprise, quel que soit l'endroit où elle est basée, de collecter des quantités massives de nos données personnelles détaillées qui sont ensuite mises à la disposition des coursiers en données, des agences gouvernementales américaines et même des adversaires étrangers. Bref, il est indéniable qu'on doit adresser les enjeux géopolitiques et de désinformation et de vie privée causés par des applications comme TikTok, mais le projet de loi tel qu'il existe présentement n'est qu'un bandage qui n'offre pas de réelle solution à long terme, n'adresse pas toutes les autres plateformes sociales qui collectent nos données ou les autres applications ayant de similaires provenances géographiques, par exemple Temu, WeChat ou Shein. Dans les mots de Samantha Floriani, une activiste du droit en ligne, il ne s'agit donc pas de nier les véritables inquiétudes concernant le gouvernement chinois, mais une telle focalisation aveugle sur TikTok en tant que grand méchant d'Internet fait dérailler la tâche la plus urgente consistant à démanteler de manière significative les modèles commerciaux sous-jacents du capitalisme de la surveillance. De l'autre côté, il est certain qu'on ne peut pas continuer à ignorer les risques d'ingérence politique hostile ou l'impact catastrophique de la désinformation sur des plateformes potentiellement motivées par des intérêts étrangers. Il faut considérer que le gouvernement chinois n'hésite pas non plus à bannir de son côté les applications et plateformes d'origine américaine. Il s'agit d'une situation nuancée et complexe qui n'aura pas fini de faire parler d'elle dans les semaines, voire les mois à venir, mais qui mérite d'être considérée dans son ensemble, soit sous le nom du projet de loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers et non pas le réducteur titre de TikTok ban.
Après avoir regardé un documentaire qui en faisait bon usage, Thierry Weber s'intéresse aujourd'hui à l'utilisation des données en ligne pour faire des enquêtes.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Suite à la diffusion du documentaire captivant Navalny, réalisé par le talentueux Daniel Roer, une curiosité m'a saisi. Au-delà de l'histoire personnelle d'Alexeï Navalny, cet opposant politique russe charismatique et tenace, ce film met en lumière une facette de la lutte moderne pour la justice et la transparence, l'usage de l'open data et de l'investigation en ligne via la data. Dans un monde où l'accès à l'information est aussi vaste qu'une mer infinie, naviguer à travers les vagues de données pour extraire la vérité devient une compétence cruciale. Alors, on va plonger au cœur d'une histoire qui mêle politique internationale, technologie et quête de vérité. Nous allons explorer comment l'open data, ces données librement accessibles à tous, a été utilisé d'une manière particulièrement ingénieuse par l'équipe d'Alexeï Navalny, l'opposant politique russe bien connu, pour enquêter sur sa propre tentative d'empoisonnement en août 2020. Imagine un moment, des bases de données accessibles à tous, des informations de voyage, des enregistrements d'appels et même des posts sur les réseaux sociaux se transformant en pièces d'un puzzle complexe. L'équipe de Navalny, avec l'aide de journalistes d'investigation et d'organisations comme Bellingcat à plonger dans cet océan de données. Ils ont réussi à reconstituer le fil des événements, identifiant un groupe d'agents du FSB, le service de sécurité fédérale russe, qui avait suivi Navalny au fil de ses déplacements. Ces agents spécialisés dans les substances toxiques étaient en communication constante, leur coordination révélée par l'analyse minutieuse des données publiques, alignant leurs mouvements avec ceux de Navalny depuis plusieurs années. L'un des moments les plus saisissants de cette investigation fut lorsque Navalny lui-même, se faisant passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement, a réussi à obtenir des aveux lors d'un appel téléphonique avec un des agents impliqués. Cet appel, c'était comme arracher le masque de l'opérateur, exposant non seulement leur rôle dans l'empoisonnement, mais aussi la vulnérabilité des puissants face à la perspicacité et l'audace. Cette histoire est un témoignage puissant du rôle que l'open data peut jouer dans la lutte pour la transparence et la justice. Elle montre comment, armés de données et de technologies, des individus et des groupes peuvent défier les narratifs officiels et chercher la vérité, même contre des adversaires redoutables. Mais cette histoire nous amène à une réflexion plus sombre. Alexei Navalny, l'homme au cœur de cette quête de vérité, est tragiquement décédé dans des circonstances mystérieuses. Sa disparition soulève des questions urgentes sur le pouvoir, la corruption et le coût de la dissidence. En se tournant vers l'avenir, nous devons nous demander comment l'open data et les efforts d'investigation continueront-ils à jouer un rôle dans la mise au jour des vérités cachées. La mort de Navalny marquera-t-elle un tournant dans la lutte pour la transparence et la justice, ou verra-t-on une intensification des efforts pour utiliser les données ouvertes comme outil contre l'oppression? La question reste ouverte. Dans ce monde où l'information est à la fois arme et bouclier, l'histoire de Navalny nous rappelle le pouvoir des données ouvertes et de l'ingéniosité humaine dans la quête incessante de justice. Alors, ne laissez pas trop traîner vos infos en ligne, soyez vigilants, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
Eh bien, cette semaine, n'ayant pas froid aux yeux, Stéphane Ricoul nous parle d'ordinateur quantique.
La téléportation quantique est un concept fascinant dans le domaine de la mécanique quantique. S'il ne s'agit pas de téléporter des objets ou des personnes comme dans la science-fiction, mais plutôt de transférer l'état quantique d'une particule à une autre, peu importe la distance qui les sépare, il marque tout de même l'imaginaire et nous ramène en 1986 avec le film La Mouche, The Fly, dans sa version originale. Le phénomène que j'évoque ici repose sur l'intrication quantique, où deux particules sont interconnectées de telle sorte que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, même si elles sont éloignées. Et j'ai tenté de l'expliquer à des amis qui ne connaissaient même pas l'existence de l'informatique quantique ou de la mécanique quantique, alors que moi-même j'y comprends pas grand-chose, mais je suis fasciné en revanche. J'ai pris un raccourci. J'ai expliqué que grâce au quantique, deux particules pouvaient coexister à deux endroits différents et évoluer de façon complètement synchrone, même si distante de milliers de kilomètres. Et n'écoutant que mon courage créatif devant un auditoire fasciné, non pas par mes mots, mais par le concept même, j'ai poussé la réflexion jusqu'à dire qu'un jour, je ne sais pas quand, nous pourrions penser nous créer un jumeau numérique quantique, que nous pourrions envoyer en vacances toutes les fins de semaine, dans des pays lointains et exotiques, sur les plus belles plages du monde, sirotant les cocktails les plus exquis et mangeant les plats les plus fins servis dans des restaurants étoilés Michelin au moins 8 fois tant qu'à y être, et que notre double numérique quantique pourrait nous faire vivre réellement l'expérience de par le phénomène d'intrication. Et là, la question ultime est tombée. Cela veut-il dire que nous allons pouvoir bronzer sans sortir de notre salon en plein hiver québécois? Le bronzage quantique. Ça peut paraître drôle comme ça, mais ça nous amène quand même une réflexion intéressante du point de vue éthique et social. Imaginez un instant que nous puissions appliquer les principes de l'intrication quantique à notre propre espèce humaine, où vos pensées et vos émotions sont connectées instantanément à quelqu'un d'autre, à travers le temps et l'espace. Ce serait fascinant, avouons-le. Mais avant de plonger tête première dans ce paradis quantique, jetons un œil aux petits cailloux qui pourrait se glisser dans nos souliers lors de notre marche sans complexe dans l'univers des particules entrelacées. Tout d'abord, parlons intimité et sécurité, car qui voudrait d'une boîte de Pandore où nos secrets les plus inavouables pourraient fuir vers les hackers venus de l'Est ? Assurer la confidentialité des pensées serait un casse-tête digne d'un escape game qui lui aussi serait quantique tant qu'à y être. Déjà qu'on n'est pas foutu de protéger adéquatement nos données privées classiques, imaginez nos pensées. Puis, il y a cette question existentielle. Si je suis intriqué avec quelqu'un d'autre ou un autre moi-même, suis-je encore tout de même moi-même? Ou suis-je un nous ambulant? Notre individualité pourrait se retrouver dans une crise d'identité. Et n'oublions pas le consentement. On ne parle pas de choisir la couleur de son cocktail, justement, mais bien de décider avec qui partager son espace mental ou quelle forme de qui. Un oui éclairé serait plus que nécessaire, mais comment s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde? La responsabilité aussi devient floue. Si votre jumeau numérique quantique bâille et que vous vous endormez à des milliers de kilomètres de ça, à qui la faute? Alors que tout le monde s'arrache présentement les cheveux à tenter d'encadrer correctement l'intelligence artificielle, imaginez dans quel tourbillon philosophique pour démêler ce nœud, nos lois et nos gouvernements devraient alors se plonger. Sans parler de l'exclusivité de ce club quantique et non pas nautique. Imaginez que seuls les plus fortunés d'entre nous aient les moyens de s'intriquer. Les inégalités sociales prendraient alors une dimension quantique littéralement. Et pourtant, si l'on regarde du côté de la médecine, les possibilités liées au quantique sont certainement vertigineuses. Un voyage où la médecine rencontre le quantique, un endroit où les médecins ressemblent à des Jedi avec des stéthoscopes. Actuellement, les idées de médecine quantique se sont surtout confinées aux laboratoires et aux esprits des physiciens. Mais elles pourraient un jour nous propulser dans une ère de soins de santé révolutionnaire. Imaginez un monde où l'on pourrait zoomer sur vos cellules avec une précision digne d'un microscope quantique, rendant les diagnostics aussi nets que la définition 8K. On pourrait détecter un vilain petit virus se faufilant entre vos mitochondries comme si on repérait un intrus dans une fête VIP. Puis, il y aurait des médicaments tellement bien ajustés à votre biochimie personnelle qui pourraient éviter les effets secondaires, une sorte de match parfait moléculaire. On parle de bistouri avec une finesse telle qu'il pourrait opérer vos atomes individuellement, une délicatesse qui ferait passer la microchirurgie d'aujourd'hui pour de la maçonnerie. Au rang de vedette mondiale, ne négligeons pas notre cerveau, cette boîte noire mystérieuse. Si l'on parvient à déchiffrer ses secrets quantiques, on pourrait peut-être réparer les circuits de nos humeurs, par exemple. Et pour finir en beauté, parlons de régénération. Oubliez les crèmes anti-âge. La médecine quantique pourrait un jour nous permettre de réparer nos tissus, rendant les pansements aussi démodés que les téléphones à cadrans. Tout cela semble incroyable, et pour l'instant ça l'est. La médecine quantique est encore dans ses couches, babillant des possibilités infinies. Mais qui sait ? Avec le temps, ces rêveries pourraient devenir les check-up de demain, révolutionnant la manière dont nous luttons contre les maux et les bobos. Gardons l'œil ouvert et le cœur prêt pour l'avenir, car en matière de santé, la mécanique quantique pourrait bien nous réserver des surprises plus étonnantes que la fiction elle-même. Mais à quel point sommes-nous prêts à devenir des cobayes de l'esprit pour la science? Bien que tout ce que je viens de décrire semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, c'est une conversation sérieuse à avoir. Ces réflexions éthiques et sociales sont comme des exercices d'échauffement pour nos esprits, nous préparant au marathon technologique de demain. Alors, même si l'intrication humaine n'est pas pour aujourd'hui, gardons l'esprit ouvert et prêt pour les surprises que nous réserve le futur quantique.
Comme à l'habitude, c'est le temps à ce moment-ci d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Salut Bruno.
Cette semaine, Jean-François, tu as voulu poursuivre la conversation sur le prototypage rapide.
Ben oui, comme tu le sais, dans les dernières semaines, j'ai eu quelques entrevues en lien avec le prototypage rapide. C'est-à-dire que dans le contexte du UX, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire plus rapidement en mode prototype ce qu'on pourrait avoir à faire en développement pendant des mois et des mois. Donc, on veut le faire rapidement, on veut le faire le plus efficacement possible avec le moins de coûts et le moins de ressources mises en jeu pendant ce temps-là.
Ouais, mais cette fois, pour parler de prototypage rapide, tu as décidé d'aller chercher une grande ambassadrice de l'approche no-code.
Et oui, donc, c'est pour ça que cette semaine, j'ai voulu parler avec Céline Delval, parce qu'elle est une évangélisatrice du no-code en France. Elle était venue au WAC l'année dernière, où je l'ai rencontrée brièvement. Elle est de Nantes, ou dans la région de Nantes en ce moment, et elle travaille en ce moment pour le ministère des Affaires extérieures de la France, où elle essaie de justement faire adopter ce genre de méthodologie-là. Puis on s'entend, c'est un gros mandat, là, surtout dans un appareil gouvernemental, d'arriver et d'être capable de dire « Hey, on va faire des choses, on va essayer, on va tester », alors que le réflexe plus souvent, c'est de dire ben, « On part sur un projet, on a nos méthodologies, puis on va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour le réaliser. » Je pense qu'elle a un immense défi devant elle.
Jean-François, ben, d'abord, merci pour cette rencontre, et puis on va aller l'écouter à l'instant. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
Parfait, allons l'écouter. Merci Bruno.
Allez, salut.
Bye.
Bah écoute, pour la définition du no-code, voici la mienne en tout cas. Pour moi, le no-code, c'est une nouvelle génération d'outils qui est arrivée à maturité ces dernières années, qui permet de construire des sites web, des applis web, mobiles et des interfaces sans savoir coder. Et ça m'arrange bien parce que moi, je ne sais pas coder. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon métier, je fabrique des applications métiers en no-code. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail, il y a plusieurs types d'outils no-code. Tu as des outils qui te permettent de gérer les bases de données. Donc, qu'est-ce qu'on connaît jusque-là? Peut-être Access, qui serait l'outil le plus grand public pour gérer des bases de données et qui n'est pas très accessible, disons-le, ou pour… l'expérience utilisateur, pas le meilleur outil.
Oui, c'est pas jeune quand même.
Ouais. Et comment gèrent aujourd'hui les gens leurs données, les gèrent dans Excel, qui est un tableur.
Ouais. Et il y a des limitations par contre. Puis si on pourrait en parler aussi, il y a quand même dans le no-code, me dit-on, encore des limitations de, on peut pas nécessairement amener un système no-code à un très 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 large public. Ou peut-être oui.
Alors, en large public, je te dirais au contraire, si tu veux, on parlera des limites de no-code parce qu'il faut aussi les présenter. Mais pour l'instant, je voudrais te décrire les différents types d'outils. Donc, je t'ai parlé des outils de base de données qui sont vraiment la colonne vertébrale généralement des outils qu'on va fabriquer. Mm-hmm. Tu as les outils d'automatisation qui te permettent de déclencher des actions, de créer des workflows. Ou en français, on dirait des processus.
Processus.
Je me perds dans les langues et je fais attention. Et puis, tu as aussi la troisième catégorie qui va être les outils de front, les outils où on va créer vraiment une interface ou la face visible de l'iceberg. Et puis, d'autres outils no-code qui seraient plus spécialisés, plus spécifiques. Mais en tout cas, c'est très important d'associer généralement ces trois types d'outils. Base de données, automatisation et front pour avoir un résultat. Voilà ma définition du no-code. Je pense qu'elle va évoluer. Tu as aussi le low-code. Je ne sais pas si low-code,
c'est
plus familier. D'accord. C'est une autre catégorie de produits qui, elle, va utiliser les mêmes techniques de modules qui sont déjà pré-codés. Mais qui vont être associés à également du code. Donc, les outils low-code s'adressent plus à un public de développeurs qui veut gagner du temps en utilisant déjà des choses qui sont codées.
D'ailleurs, c'est à date beaucoup des programmeurs qui me parlent du no-code en disant que c'est quelque chose qui pourrait nous permettre d'aller plus vite dans un tel projet.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette approche parce que on dit généralement, en tout cas dans le milieu que je connais en France, que les développeurs peuvent être un petit peu méfiants sur le code parce que ça peut casser leur privilège leur connaissance, en fait, ouais, dévalorisée, alors que je pense le contraire. Déjà, ce sont des développeurs qui créent les outils no-code, bien sûr. Donc, on a extrêmement besoin d'eux. Et eux vont intervenir sur des projets plus complexes, là où justement le no-code va connaître ses limites. Donc, c'est bien que les développeurs s'éveillent à cette nouvelle façon de travailler qui est plus rationalisée, plus efficace, et qui leur permet d'éviter du code inutile et pénible, en fait. C'est un avantage également pour eux.
C'est des blocs de fonctionnalités déjà faits, dans le fond.
C'est ça. Alors, comment vous fonctionnez les outils no-code? Eh bien, vous allez faire intervenir différents blocs. C'est des Lego, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, vous allez assembler différents éléments. Si on parle d'un outil de base de données, on va pouvoir agréger des tables entre elles pour avoir une base de données relationnelle et donc mieux faire parler les données. L'objectif principal des outils no-code de base de données, c'est quand même de remplacer les multiples Excel qui éparpillent la donnée au sein d'un même service. Ça peut vous arriver, plusieurs documents n'ont pas la même mise à jour. Donc, une source de vérité, c'est un outil de base de données unique et ça facilite le travail collaboratif et le partage de l'information.
Donc, et de ce fait, j'ai vu plusieurs petites entreprises à Montréal sauter sur l'occasion de se construire un système de gestion d'entreprise à partir de ces technologies-là, comme par exemple Airtable, qui est très polyvalent, plutôt que d'aller acheter un gros système de gestion d'entreprise qui sont souvent très chers aussi, ou avec des modules dont on n'a pas besoin, ben, ils se lancent dans Airtable et les modules sont là, même il y a des templates de base qui sont utilisables pour les entreprises.
Exactement, tu as raison, il y a des templates. Alors moi, je ne recommande pas parce que quand tu crées une base de données dans Airtable ou un autre outil, il faut que tu maîtrises son fonctionnement. Et donc, si tu l'as compris, il est préférable de se former un peu à l'outil et de maîtriser son fonctionnement pour en assurer la maintenance et l'évolution. Donc, mais c'est un bon départ déjà pour voir comment ce type d'outil fonctionne. Tu as accès à plein de templates, tu l'as dit, sur du marketing, sur du recrutement, sur un peu tous les cas d'usage, parce que tu l'as dit, ce sont des outils extrêmement polyvalents qui s'adaptent à beaucoup de cas d'usage.
Oui, et comme il n'y a pas une entreprise pareille vraiment, ils peuvent vraiment mettre à leur main les différents modules comme ils le veulent. Mais tu dis que tu ne recommandes pas à une entreprise de partir comme ça à partir des templates?
Pour les raisons que je t'ai dit, c'est bien quand même d'avoir toujours quelqu'un dans ton équipe qui va maîtriser l'outil qui va en suivre l'évolution.
Oui,
donc,
oui.
C'est bien que la personne se forme un peu et donc soit capable de créer l'outil dont ils ont besoin.
Oui,
c'est
oui,
une ressource qui est importante. Alors, tu peux faire créer tes outils par des freelances externes. Mais je recommande toujours quand même d'avoir quelqu'un parce que l'apprentissage est rapide. Donc, c'est vraiment un grand bénéfice que d'avoir cette ressource en interne. Et puis, je vais te dire maintenant, qui n'a jamais touché à Excel, ça n'existe pas. Et je pressens que ces outils nouvelle génération vont s'implanter. Moi-même, pour revenir à ce que je fais, mon travail, c'est quand même de remplacer ces fichiers Excel qui sont utilisés pour gérer des données et des process. Donc, ces outils sont en train d'intégrer les façons de travailler des gens maintenant petit à petit. Alors, on est au tout début, j'en conviens, mais on y vient. Voilà, c'est une compétence qu'il va falloir avoir sur son CV bientôt. Ça sera vraiment un plus.
Celle de pouvoir utiliser du no-code?
Oui, de maîtriser un outil, notamment un outil de gestion de base de données ou d'automatisation.
On va peut-être commencer à le voir au même titre que dans les requis d'emploi. Parfois, on voit connaissance de la suite Office. Ben, peut-être que maintenant, on va devoir demander à nos employés de connaître du no-code, de pouvoir y jouer un peu, là.
Bien sûr, parce qu'une fois que cette technologie est installée dans une entreprise, il faut que ceux qui la rejoignent soient capables d'utiliser les outils. Bien que la formation, je le dis vraiment, je l'affirme, est rapide. Et l'utilisation, tout est fait dans ces outils, puisqu'on est là pour parler du UX, pour que l'interaction homme-machine soit très simple et instinctive. L'apprentissage de l'outil et de son fonctionnement est vraiment rapide. Mais voilà, c'est toujours un plus de dire à ce stade que oui, eh ben on connaît ça au même titre qu'on est capable de mettre Excel sur son CV.
Quel outil tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter, qui veut se mettre un peu les mains dedans, là, qui est dans un milieu corporatif, qui se dit ben, peut-être qu'il y a des avantages pour moi ou une petite entreprise? Tu lui conseillerais d'aller vers quel? Ou, mettons par exemple le cas d'une petite entreprise qui voudrait commencer à se familiariser un peu avec ça en se disant il y a peut-être des avantages par rapport à ce qu'on entend ce matin. Là.
Ça serait Airtable parce que c'est vraiment le plus agréable avec lequel travailler. On progresse très vite. Il suffit de transformer son fichier Tableur actuel et de transposer dans cet outil pour voir tout ce qu'on peut en tirer. Pour être plus concrète, ça vous permet de voir, par exemple, vos données de différentes façons. Vous créez des vues. Vous avez votre jeu de données en grille, comme on le connaît dans un tableur. Et en un clic, vous allez pouvoir l'afficher en format calendrier si vous avez des dates. Vous allez l'afficher sous le format de carte si c'est une liste de produits. Mmh. Donc, vous avez rapidement quelque chose à partager à vos collaborateurs dont vous êtes fiers parce que vous exploitez vraiment vos données. Vous faites un peu de data visualisation. Mmh. Vous pouvez facilement faire des graphiques, mais vraiment en quelques clics. Donc, vous êtes vraiment satisfait de ce que vous partagez. Donc, pour moi, l'outil Airtable, et c'est avec celui-là que je suis vraiment tombée dans la marmite du no-code il y a 6 ans, quand je cherchais moi-même un outil pour améliorer l'organisation avec mon équipe. J'avais ces problématiques de fichiers un peu dispersés. Cet outil nous a vraiment permis de faire un bond en avant dans notre organisation et de gagner beaucoup de temps et de sécuriser nos données.
Ouais, j'imagine. Et cette année, enfin, on l'a vu en 2023, l'arrivée de l'AI, le prompting. Est-ce que tu considères que ça va être un game changer? Ça va améliorer beaucoup ce principe de no-code?
Alors, ça se marie très bien, l'intelligence artificielle avec le no-code, de deux manières. Soit pour construire les outils eux-mêmes, c'est-à-dire que je t'ai parlé d'outils low-code, Airtable te permet également d'injecter du code pour développer une fonctionnalité que tu ne trouverais pas de façon native. Donc, l'intelligence artificielle va t'aider à créer ce nouveau module. Et l'intelligence artificielle va aussi intervenir dans le no-code, dans l'outil lui-même. On va rester sur cet exemple d'Airtable. Airtable te permet d'analyser les données contenues dans ta base de données. Par exemple, si tu recueilles un avis client, que tu as fait une automatisation et ta base de données est alimentée avec cette information, tu peux programmer ton outil pour que l'intelligence artificielle analyse cet avis pour avoir un ressenti positif et négatif et derrière peut-être automatiser une réponse à ce client, le remercier ou l'inviter à partager son problème. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour le no-code parce que non seulement avec le no-code, tu vas avoir bien rangé tes données, tu vas les avoir bien catégorisées et derrière, avec l'IA, eh ben, tu vas les analyser et tu vas automatiser des actions. Voilà. Donc, c'est la fusée qui part sur Mars.
Donc, 2024, on risque de voir des applications, que ce soit à travers la boutique ChatGPT ou avec des interactions avec Airtable, des choses qui vont ressortir beaucoup. Il risque d'avoir des créations très intéressantes.
Les entreprises commencent, en tout cas en France, c'est très fort. Depuis, je dirais, 3-4 ans maintenant, il y a une communauté française qui s'est fondée et qui est assez... Écoute, c'est 13 000 membres sur le Slack de No Code France, par exemple.
Ah oui, OK.
C'est très, très actif. Donc, c'est en train de se répandre un peu dans les entreprises françaises. Et effectivement, No Code plus IA, les entreprises qui vont utiliser ça vont gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité, c'est sûr.
Intéressant. Est-ce qu'un Québécois peut se joindre à ce Slack-là, même s'il n'est pas sur le territoire européen?
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a même une chaîne pour que les Québécois organisent leurs apéros.
Ah oui, OK.
Oui, oui, absolument.
Là, on va les inviter. Est-ce que à quelle adresse on doit se rendre pour pouvoir s'inscrire là-dessus?
Écoute, c'est NoCode France. Tu as un site web où tu pourras retrouver certainement le lien. facilement. C'est une grosse communauté et vous êtes absolument les bienvenus.
Incroyable. Vraiment intéressant, Céline. Mais j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette belle conversation aujourd'hui.
Un grand plaisir à toi.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci aussi à mes collègues, hein, Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Aubert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Mon Carnet. Bonne semaine, portez-vous bien.